Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 3e dimanche de Pâques, nous entendons de nouveau le récit des pèlerins d'Emmaüs. Et il en va de ce récit comme d'autres de l'Évangile. À force de les entendre, nous avons l'impression de les connaître. Mais si ces récits nous sont dits, redits, racontés plusieurs fois, c'est pour que nous comprenions qu'ils sont lourds d'une éternité toujours nouvelle et que dans ce qui semble être une forme toujours la même, le Seigneur vivant y est présent et se communique à nous, lui qui est toute nouveauté au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pour toute notre vie et même pour notre éternité, frères et sœurs, nous n'aurons pas fini de lire, de relire ce récit d'Emmaüs et de découvrir, pour peu que nous nous interrogions toujours sur lui à frais nouveaux, des révélations qui nous emmèneront toujours plus avant dans le mystère de Dieu, dans le mystère de l'Eucharistie, dans la résurrection du Christ et notre propre résurrection que Jésus vient nourrir en nous par l'Eucharistie. Et peut-être que ce matin, l'une des premières choses que cet évangile nous redit, c'est combien il est important que nous puissions redire au Seigneur Jésus toute notre histoire, avec nos espoirs et nos déceptions. Combien il est important que nous puissions lui dire notre tristesse lorsque nous sommes désabusés. Combien il est important que nous lui disions nos dépressions lorsque nous sommes coupés de la vie. Peut-être lorsque, à force d'être enfermés et de manquer d'espace, nous avons l'impression de diminuer dans notre besoin d'ouverture et d'expansion et que cela nous affecte. Combien il est important que nous puissions dire au Seigneur Jésus tous les espoirs qui sont les autres, les nôtres, y compris et surtout peut-être lorsqu'ils sont déçus. Chaque fois que nous attendons quelque chose de grand pour nous, pour notre vie, que cela ne se passe pas, que c'est même l'inverse qui arrive, et que nous sommes en quelque sorte remis en face de nos limites, parfois de nos médiocrités, parce que nous ne réussissons pas autant que nous le voudrions, et que nous n'avons peut-être pas suffisamment l'habitude de nous tourner vers le Seigneur pour lui redire cela, parce que nous pensons qu'il le sait déjà. Le Seigneur, quand il nous pose la question « Quels événements ?», nous invite à lui dire notre vie, à la remettre entre ses mains, pour qu'en la formulant avec nos mots, nous puissions déjà la mettre à distance, retrouver notre liberté et recevoir sa bénédiction de guérison profonde. C'est une guérison profonde de toute notre existence que cet évangile nous appelle ce matin en nous demandant et en nous invitant instamment, en faisant mémoire de tous les moments de notre vie, à les remettre dans les bras de Dieu, dans les mains du Christ, y compris ceux que nous avons vécus sans lui. Demandons au Seigneur la grâce, en ces temps de confinement, de faire travailler notre mémoire. Car l'Eucharistie est le sacrement de la mémoire, ce sacrement qu'on appelle le mémorial de la Passion, c'est-à-dire la mémoire qu'en a Dieu et pas simplement nous. Et nous avons toujours ce travail spirituel de relecture de notre vie à faire pour pouvoir remettre en permanence tout ce que notre mémoire nous rappelle dans les mains du Seigneur, pour qu'il le porte, le prenne, le guérisse, le transfigure et nous fasse entendre ce qu'il dit aux disciples, que votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas souffrir tout cela pour entrer dans la gloire ? C'est Jésus qui vient souffrir en nous chaque fois que nous souffrons, et c'est Jésus ressuscité qui nous emmène avec lui. Eh bien, cette première partie de la célébration de l'Eucharistie et la liturgie de la parole, elle est déjà vécue à Emmaüs lorsqu'il s'agit de relire l'histoire. Et la seconde partie, qui est celle de l'Eucharistie aujourd'hui, c'est lorsque Jésus, qui a été physiquement avec les disciples pour relire leur histoire et leur faire comprendre que cette histoire n'est pas absurde, que les échecs ont un sens et que toutes les croix et les souffrances qui sont portées ne sont pas vaines, eh bien, lorsqu'il a accompagné ainsi les disciples dont le cœur a été brûlant parce que ses disciples sentaient que leur désespoir, leur désillusion ne conduisait pas nulle part, mais avait un sens quand elles étaient replacées dans le dessein de Dieu. Lorsque le Seigneur a fait cette première partie, il reste avec les disciples, avec nous, pour célébrer à table la présence de son corps et de son sang dans le pain qu'il donne, qui est celui-là même de sa chair ressuscitée, qui contient aussi son sang. Et ce contact est fugitif, très fugitif. Et les disciples le reconnaissent, mais il disparaît à leur regard. Demandons au Seigneur que notre habitude de recevoir l'Eucharistie s'inscrive véritablement dans ce qui se passe à Emmaüs. C'est-à-dire que ce soit un moment où les yeux s'ouvrent, les yeux du cœur, et où nous le reconnaissions. En ce moment où nous sommes privés de la communion sacramentelle au corps du Seigneur, demandons-lui la grâce de pouvoir le reconnaître vraiment lorsque nous le retrouverons et demandons-lui peut-être la grâce aussi de pouvoir remettre entre ses mains toutes ces communions que nous avons faites sans le reconnaître vraiment. Demandons à ce carême prolongé qu'est ce confinement actuel la grâce de pouvoir remettre entre les mains de Dieu toutes ces eucharisties auxquelles nous avons participé sans être véritablement présents au Seigneur parce que notre cœur était ailleurs. Eh bien, que ce temps de jeûne qui nous est imposé soit un temps de conversion où nous laissons le Seigneur toucher notre cœur pour que notre communion de désir nous ouvre à sa présence, tout comme le baptême de désir, comme l'a toujours tenu l'Église, réalise chez celles et ceux qui ne peuvent pas recevoir le baptême d'eau la même grâce qui est celle de participer à la crucifixion et à la résurrection du Christ. Puissions-nous, par notre désir du Christ ressuscité, communier déjà réellement, effectivement, à la grâce que l'Eucharistie nous donne, car c'est bien cela que l'Eucharistie vise à la fin de toute chose, lorsque nous avons communié matériellement et sacramentellement à l'Eucharistie, nous avons ce temps d'action de grâce où nous demandons à l'Esprit-Saint de faire fructifier en nous la grâce sacramentelle que nous venons de recevoir, car la grâce sacramentelle n'est pas une fin en soi, c'est le fruit de cette grâce qui est une fin. Et le fruit de cette grâce, nous avons à le désirer, en nous disant que bien entendu le sacrement est la médiation la plus excellente pour recevoir cette grâce et lui faire porter son fruit, mais en nous disant aussi que le Seigneur, par le désir qu'il fait grandir en nous de communier à sa vie, nous exauce déjà lorsque, sans que nous le voulions ni que nous puissions faire autrement, nous sommes privés de la matérialité du sacrement. Voilà jusqu'où va l'amour infini du Seigneur. Voilà jusqu'où va cette surabondance de grâce qui, en nous faisant dès maintenant dans nos confinements toucher la grâce que donne l'Eucharistie habituellement, nous la fait désirer davantage pour que le jour où nous la recevrons dans la matérialité du sacrement, nous puissions la vivre d'une manière toute nouvelle que nous n'aurons peut-être jamais connue auparavant. Tellement le Seigneur est bon, tellement il est grand et tellement il veut que nous puissions goûter combien sa résurrection nous alimente déjà et vient déjà en nous nourrir notre amour, notre foi et notre espérance. Et bien que cette espérance de notre résurrection soit forte en nous, soit la résurrection de notre espérance, de notre fin dernière, et pour cette raison-là, nous soutienne dans nos intercessions présentes, dans nos efforts présents, pour que nous ne baissions pas les bras au moment où nous devons rester en lien plus encore que d'habitude les uns avec les autres, pour que dans notre intercession commune, nous puissions nous porter les uns les autres et vivre ensemble dès maintenant quelque chose de cet amour dont nous vivrons pour toujours dans le ciel. Amen.